18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. Aujourd'hui et même demain, c'est la journée mondiale des maladies rares. Plus d'une centaine de pays participent à cette journée pour attirer l'attention du public sur ce combat de tous les jours. Et justement à Brest, à la PAM, il y a une exposition sur ce sujet, organisée par le Centre de référence des maladies rares du CHU jusqu'à 19h. Alors dépêchez-vous si cela vous intéresse. Et pour celles et ceux qui restent avec nous, vous n'étiez pas sans savoir que la semaine dernière, c'était le début du Salon de l'Agriculture. Et justement, Michael était au Salon de l'Agriculture et il est allé à la rencontre de producteurs bretons. Je vous laisse écouter.
De la bière, du cidre, des crêpes et de l'andouille. La Bretagne était bien présente pour mettre en avant son terroir lors du Salon de l'Agriculture. Pour cette 60e édition, le pavillon 7 du Parc des Expositions Porte de Versailles était festif et semblait bien loin de la crise qui touche les agriculteurs. Parmi ces 47 exposants, Gurven Bourvelec, producteur de Tom de Ruys, est présent au salon pour la 16e fois.
Ça me permet de toucher une clientèle parisienne et de France en général, qui viennent après en vacances en Bretagne.
Mathilde Jiquel, biscuitière, est venue exposer ses Queen Amann pour la 12e fois et voit ce salon comme une belle vitrine.
C'est important, on vient présenter nos produits, montrer notre savoir-faire et puis c'est une belle vitrine parce qu'on croise... Il y a quand même beaucoup de visiteurs français de toutes les régions, étrangers.
Denis Legendre, novice au SIA, y voit une opportunité pour montrer la singularité de chacun des exposants.
Eh bien, ça poursuit la démarche de proximité, ça poursuit la démarche d'exclusivité de chacun d'entre nous, producteurs, transformateurs, distributeurs.
Pour rappel, l'activité du secteur agricole fournit près de 4% des emplois bretons, ce qui en fait la première région agricole et maritime de France.
Pour rappel, le Salon de l'Agriculture se déroule du 24 février au 4 mars 2024. En parlant de ce salon, vous n'étiez pas sans savoir que ce salon était très attendu, notamment suite aux manifestations paysannes. Dans ce cadre, nous avons décidé à la rédaction de Radio U de rediffuser une interview de Jérémy avec Julien Talec.
On l'a dit en début d'émission, les agriculteurs sont en colère, les manifestations et les blocages continuent. Et nous avons avec nous pour en parler Julien Talec de la Confédération Paysanne du Finistère. Bonjour Julien, est-ce que vous me recevez ?
Oui, je vous reçois.
Ah, parfait, parfait. Donc, vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne dans le Finistère, qui est donc un syndicat agricole. On a surtout entendu parler ces derniers jours de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui sont décrits un peu comme la coalition toute puissante, notamment dans le journal Le Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, présenter votre syndicat et son action ?
La Confédération Paysanne, comme son nom l'indique, c'est le seul syndicat qui défend vraiment une agriculture paysanne et les paysans. C'est le deuxième ou le troisième, suivant les régions, syndicats en France. Donc on est basé dans le Finistère, en tout cas on est basé à Briec, nos bureaux sont basés à Briec. On a aussi une antenne régionale à Rennes, là, et une antenne nationale. Donc c'est un peu comme une pyramide, si vous voulez, avec plusieurs niveaux. Donc on a un secrétaire national qui nous donne aussi certaines de leurs revendications. Et puis après, chaque département fait un petit peu sa petite popote chez lui. Mais c'est une très grande confédération qui existe depuis 1987.
Très bien. On reparlera un peu de votre secrétaire national dans quelques instants. Depuis quand vous avez rejoint ce mouvement de grève ? Est-ce que vous étiez là dès le début avec la FNSEA ou est-ce que vous avez rejoint après ?
Écoutez, déjà, nous, on est sur le mouvement là, qu'il y a cette semaine. Nous, on était un petit peu, au début, on a regardé un petit peu de l'an, qu'est-ce qui se passe, hein, comme tout le monde. Nous, déjà, on s'est mobilisé pendant plusieurs mois, depuis le mois de septembre, pour défendre nos agriculteurs herbagers, notamment sur la question des MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc on a passé plusieurs mois, donc depuis le mois de septembre, on a même rencontré le ministre, on est allé jusqu'à Paris au ministère pour défendre ces mesures qui sont des mesures qui permettent aux paysans herbagers en système herbivore de toucher des aides en contrepartie de avec des contreparties environnementales, c'est-à-dire des meilleures pratiques, plus d'herbes dans un solement, moins d'intrants, peu de pesticides, voire zéro pesticide, respecter la biodiversité. Donc ça, c'est... si vous voulez, on avait signé... Tous les paysans ont signé au 15 mai leur déclaration PAC, c'est des CMAEC, là. Donc c'est dans le deuxième pilier de la PAC, c'est un peu compliqué. Mais l'État n'avait pas pris la mesure donc, de l'engouement, et ce qui est plutôt positif, l'engouement des paysans pour ces mesures, ils n'avaient pas mis assez d'argent dans leur portefeuille, et il manquait 60 millions d'euros pour la Bretagne. Et, voilà, on s'est mobilisé une dizaine de fois, et on a eu gain de cause. Là, c'est que cette semaine, la semaine dernière, qu'on a enfin eu, avec le début des mobilisations, qu'on a enfin eu la réponse de l'État, qui nous a bien dit qu'on toucherait nos MAEC comme ce qui était engagé.
Les MAEC, c'est les aides qui concernent les suites de la tempête Ciaran, ou c'est différencié?
Non, les MAEC, c'est vraiment pour les paysans qui font de l'élevage herbager, c'est-à-dire en herbivore, donc des vaches, des moutons, des chèvres, qui sortent leurs vaches, qui mettent leurs vaches au pré et qui mangent de l'herbe. Voilà.
D'accord, ouais.
Voilà.
Tout simplement.
C'est pour en gros baisser c'est pour garder des prairies, puis pour baisser la proportion de maïs, de soja, des choses comme ça qui sont importées.
D'accord.
Est importé. Et après, pour les aides à la tempête, on s'est aussi mobilisé cette semaine à Plougastel-Daoulas. Alors là, c'est différent. Le ministre est venu début novembre, le président est venu lui mi-novembre. Ils ont fait des belles promesses et surtout nos maraîchers et puis les agriculteurs qui ont été impactés par
la tempête
ne sont toujours pas perçus les aides.
Vous n'avez pas de nouvelles à ce sujet?
Si, on a eu pas mal de nouvelles, notamment il y a eu deux guichets qui ont été ouverts. Enfin, le premier a été ouvert en tout cas concernant une aide à la trésorerie pour les paysans. Mmh. Donc voilà, c'est encore un peu de paperasse. Mais ouais. Voilà. Et puis on a un deuxième guichet. Le premier, non, excusez-moi, le premier c'est sur l'aide à l'investissement, et le deuxième c'est sur l'aide à la trésorerie. Celui-là n'a pas été encore ouvert, il est un petit peu plus compliqué.
Ok. Eh ben, on reverra ça un peu plus tard, on essaiera de suivre ce qui se passe. Pour revenir sur le mouvement de grève, je rappelle quand même que la Confédération paysanne vous différencie bien de la FNSEA, hein, parce que comme contrairement à la FNSEA, comme tu venais de dire, vous êtes sur des actions qui se rapprochent plus de la lutte écologique. Et quelles sont les revendications portées par la Confédération paysanne dans ce mouvement de grève?
Si vous voulez, en ce moment, il y a vraiment, ça part un peu dans tous les sens, donc c'est pour ça qu'il est assez difficile à décrypter. Il y a un ras-le-bol qu'on comprend très bien là sur le trop de paperasse, hein, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse en agriculture, mais pas que en agriculture d'ailleurs. Nous, là-dessus, on suit un petit peu moins la FNSEA, dans la mesure où beaucoup de ces contraintes administratives sont un petit peu le fruit d'une politique qui a été menée depuis bien longtemps d'ailleurs, hein, mais qui a été de produire toujours plus. Et on sait très bien en Bretagne qu'on a trop produit certainement. On a eu pas mal de problèmes environnementaux, notamment les algues vertes, les nitrates, etc. Et donc nous là-dessus, on pense quand même que si on veut avoir une transition agro-écologique, c'est-à-dire que l'agriculture puisse produire mieux, il faut cibler ses aides vers des changements de pratiques. C'est pour ça que je vous parlais des NLC tout à l'heure, mais ça peut être aussi d'autres. Le panel peut être assez large. Mmh. C'est-à-dire changer, cibler vraiment ces aides dans les changements de pratique, et puis peut-être moins aussi sur la surface, en ayant par exemple des aides qui soient plafonnées à une certaine surface ou alors au nombre d'actifs.
D'accord. Vous nous parliez tout à l'heure de votre secrétaire national Thomas Gilbert, notamment samedi dernier, qui a été invité sur BFM et qui a déclaré que le gouvernement, en se tournant exclusivement vers les représentants de la FNSEA, notamment vers monsieur Arnaud Rousseau qui est le président de ce syndicat et qui lui-même n'est pas paysan, ce que Thomas Gilbert attaquait un peu. Et il disait que la Confédération paysanne, en tout cas à un niveau national, ne se sentait pas écoutée. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites dans le Finistère? Est-ce que vous vous sentez écouté?
On est écouté, on nous écoute souvent, mais on ne retient pas tout ce qu'on dit, c'est ça le problème. On nous appelle, en Finistère, en tout cas, on a été un petit peu appelé, tout ça, mais voilà, au niveau national, c'était très compliqué. Ils ont d'abord reçu la FNSEA, et puis finalement, le lendemain, ils ont quand même daigné recevoir la Confédération Paysanne. On sait, alors qu'on sait très bien que M. Rousseau, quand vous parliez, avait déjà négocié, déjà bien en amont, notamment sur les taxes GNR, il avait négocié des primes pour les agrocarburants. Et puis finalement, avec la Grande Populaire, il est revenu à Matignon pour renégocier autre chose. Il faut savoir qu'il est, en plus d'être un très gros agriculteur, il est aussi patron de très grosses coopératives qui produisent notamment des oléoprotagineux et qui produisent des biocarburants. Donc pour lui, c'est tout bénéfice dans un sens comme dans l'autre. Donc effectivement, et après, ils ont certainement plus de poids que nous. Je crois que ce gouvernement, de toute façon, il est toujours, on va dire, un petit peu, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc voilà, il a une oreille qui est un peu plus, il prête plus son oreille à la FNSEA qu'à la Confédération Paysanne, ça c'est certain.
Il me semble qu'il y a une, dans le Finistère en tout cas, il y a une rencontre là récemment ce week-end avec le préfet.
Entre la FNSEA et le préfet?
Alors je ne sais pas si c'était la FNSEA.
C'était le week-end dernier, si vous voulez, le président de la République a demandé au préfet d'aller voir tous les paysans. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait avec les autres. Moi en tout cas, il m'a appelé. Mm-hmm. Il a été à l'écoute. Hein, mais
le préfet, hein, pas le président.
Ouais, le préfet. C'est le président qui a demandé à tous les préfets de France d'appeler, d'appeler les syndicats, les agriculteurs, d'aller les voir. Donc il n'a pas été voir tout le monde. En tout cas, nous, il nous a appelé quand même pour nous donner déjà certaines réponses sur nos revendications qui concernaient les MAEC dont je parlais tout à l'heure, la mesure agro-environnementale, sur la tempête aussi. Voilà, après le préfet, voilà, il ne fait que sur certaines choses, il a aussi il a certainement du pouvoir, mais bon, sur la politique agricole globale, il ne fait qu'appliquer ce qu'il y a en haut. Donc il ne peut pas non plus aller faire des belles promesses, lui. Voilà.
Oui, il peut pas s'engager plus
non,
que
il peut
ça.
S'engager. Après, il peut nous entendre, il peut écouter nos revendications, et puis sur un point, il peut aussi nous aider.
Bon, voilà, les porter après, un peu plus haut.
Voilà. Après, voilà, il est un petit peu. Je ne voudrais peut-être pas être à sa place non plus en ce moment. Ça part un peu dans tous les sens et ce n'est pas toujours très très clair.
On comprend. Au niveau des annonces du gouvernement, notamment de Gabriel Attal, elles ont porté sur l'utilisation de certains produits pesticides. Est-ce que ce n'est pas un pas en arrière pour les agriculteurs français, cette utilisation?
Alors, c'est un peu pour ça, nous, qu'on ne s'est pas mobilisés dans un premier temps. Hein, ce qui concerne, on parle des normes environnementales, des pesticides, revenir là-dessus, c'est une vaste reculade. C'est comme vous dites, un grand pas en arrière. Non, nous, on demande d'aider les agriculteurs à changer de système. Et c'est pour ça que les aides doivent être ciblées sur des changements de système. Si on mettait autant d'argent dans ces changements de système-là, que l'on met dans d'autres choses, dans des aides aux filières, des fois, des filières en difficulté, des aides d'exportation, si on mettait autant d'argent dans les changements de système, je pense qu'on pourrait arriver à une agriculture bien plus respectueuse aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est vraiment le point le plus négatif de ces annonces. Après, il y a eu d'autres annonces qui ont été faites qui vont plutôt dans le bon sens, mais qui sont où ils ne s'engagent pas trop non plus. Quoi.
Mmh. Tu me parlais des aides aux grosses filières. On a surtout aussi entendu parler ces derniers jours des charges qui pèsent sur les agriculteurs, hein, qui les empêchent même pour certains de tirer un SMIC chaque mois. Ces taxes françaises, européennes, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie des revendications?
Déjà, si vous voulez, c'est comme tout aujourd'hui, on va faire ses courses. Moi, je suis assez autonome dans ce que je mange. On va de temps en temps au supermarché. Sur le supermarché, je suis tombé des nues. En fait, il y a une très grosse inflation, et notamment depuis le Covid et l'Ukraine, la guerre d'Ukraine. On se retrouve avec du matériel, par exemple, on parle du matériel agricole, qui ont des prix qui ont augmenté au moins 30%. On arrive à des choses complètement abominables. Ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les agriculteurs, et ça pèse très cher sur des exploitations qui sont quand même souvent un peu endettées, qui sont de plus en plus importantes et qui font de plus en plus appel aussi à la mécanisation. On a des charges de mécanisation qui sont très importantes. Après, c'est comme tout, on a des charges aussi pour Quand on embauche, les charges sociales, peut-être qu'il pourrait y avoir des allègements de charges sociales pour aussi pousser peut-être à embaucher davantage. Hein. Ça, c'est pas forcément dans nos revendications, mais voilà. Et puis après, bon, sinon, les charges, autrement, c'est des charges comme tout le monde, hein, MSA, des choses comme ça. C'est souvent nos revenus, c'est pas toujours certains en payent beaucoup, d'autres en payent moins. Ça, c'est assez variable suivant les agriculteurs. Mmh. Je pense que c'est vraiment l'inflation, à mon avis, aujourd'hui, et l'augmentation du prix des produits et du matériel qui est la plus dure pour tout le monde, quoi. Et qui casse aussi le revenu, parce qu'on a finalement des prix de vente de nos produits qui ont augmenté, notamment dans certaines filières, notamment en viande bovine, par exemple, mmh. où le lait, bon, c'est, il n'est pas très très haut, mais bon, c'est stable. Et à côté, les charges augmentent, les achats augmentent. Donc voilà, c'est vraiment l'inflation qui
pose problème. Peut-être un dernier petit mot en plus sur les chartres environnementales, souvent qui sont décriées au sein de l'Union européenne par les agriculteurs français et qui bloqueraient un peu la possible concurrence des produits français face à ses voisins européens. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça?
Bah, c'est sûr que si on nous, je sais plus quel c'est un nom, mais c'est un peu un effet miroir, c'est-à-dire que si nous on nous impose de pas mettre de produits, de mettre moins d'azote sur nos terres, etc., de respecter le bien-être animal, et qu'on importe des produits en face qui n'ont pas les mêmes règles, et donc des coûts de production qui seront forcément moins importants, parce que le bien-être animal ou nous, nos éleveurs plein air aujourd'hui qui sont confinés malheureusement parce que pour cause de grippe aviaire ou de peste porcine, c'est les éleveurs de plein air qui sont le plus impactés et qui doivent construire donc confiner leurs animaux ou construire des parcs pour éviter le contact avec les animaux sauvages. Là, c'est des charges supplémentaires. Si les pays on importe nos produits, notamment de la viande, n'ont pas les mêmes contraintes, ben, effectivement, il y a une concurrence déloyale. Mais quand on exporte, nous, il peut aussi y avoir dans certains cas des concurrences déloyales, notamment si on exporte dans des pays africains ou alors renfort donc d'aide à l'export et qu'eux n'ont pas les moyens même de mettre en place une filière agricole. Là, il y a aussi une concurrence déloyale. Donc ça va dans les deux sens, si vous voulez. Il faut vraiment que ce que nous on importe, si on importe, eh ben ce soit au même niveau que nous, niveau environnemental, niveau qualité, niveau production, et puis ce qu'on exporte, c'est de la même façon. Ça va dans les deux sens.
Ouais, donc c'est pas que l'Union européenne qui a à remettre en cause.
Non, mais sûr que non. C'est le système entier qui a à remettre en cause. On a vraiment de quoi produire. Souvent on dit faut nourrir la France. On a largement de quoi nourrir la France avec une agriculture bien plus respectueuse. De la même manière, il y a certains pays évidemment qui ont du mal à produire suffisamment pour leur population, les produits qui sont des pays qui ont des difficultés, puis il y en a d'autres qui peuvent peut-être produire davantage et qui peuvent exporter, mais importer nous on importe du soja, vous voyez, pour réexporter du poulet en Afrique, bon, je ne sais pas si c'est très très cohérent, quoi. Mmh.
Peut-être avant qu'on se quitte, un dernier mot sur est-ce qu'on doit s'attendre à des nouveaux blocages dans le Finistère ? Est-ce que ce mouvement va continuer ?
Ouais, je n'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'il en reste encore. Au bout d'un moment, les gens ils vont aussi peut-être le mouvement va s'essouffler. Peut-être aussi, je vois qu'il fait beau aujourd'hui. Moi, j'étais un peu au champ.
Oui.
Peut-être que les gars vont avoir un peu envie d'aller travailler aussi. Nous, on va probablement se mobiliser cette semaine, mais sur plutôt une mobilisation vraiment très, comme j'habite de le dire, très bon enfant. On va essayer d'expliquer un petit peu notre point de vue. Mm-hmm. On n'a pas encore décidé, on va essayer ça probablement.
Peut-être avec du contact avec les gens sur les marchés ou...
Contact avec les gens sur les marchés ou avec les gens... Il y en a des collègues qui demandent bien, on va le faire sur des ronds-points, mm-hmm. sans forcément bloquer, mais voilà, pour un peu plutôt envie d'aller là-dessus, nous, sans faire les fous. Après voilà, je comprends très bien que les collègues certains sont complètement à bout, hein, ils ont difficulté à transmettre leur ferme aussi pour les plus âgés, les plus jeunes ils savent pas, ils sont obligés de s'embêter énormément, donc tout à fait compréhensible, hein, donc est-ce que ça va s'arrêter tout de suite, je ne sais pas, il y aura sûrement en tout cas d'autres répercussions, quoi,
à venir. Eh bien, merci beaucoup, Julien, d'être venu témoigner sur Radio U.
Eh bien, merci à vous d'avoir pensé à nous.
Et puis nous, chers auditeurs et auditrices, nous allons continuer en musique, comme à notre habitude, avec 96 de Keep Dancing Inc. C'était 96 de Keep Dancing Inc. que vous venez d'entendre sur les ondes de radio sur le 101.1. C'est vous qui le dites, ça continue et on enchaîne directement avec un reportage de Tintin. Il va nous parler de transport et de transition écologique.
Vous êtes sans doute vous aussi en voiture et dans les bouchons actuellement. C'est le mode de transport le plus utilisé en France, mais c'est aussi l'un des plus polluants. Le transport routier est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre dans le Finistère derrière l'agriculture. Sachant que la pollution est l'une des principales causes de mortalité évitable, la question d'une mobilité plus durable se pose. Et tout d'abord, écoutons les quelques étudiants rencontrés à la bibliothèque universitaire pour savoir quel transport ils utilisent au quotidien.
Je suis toujours à pied.
J'habite là, j'ai pas besoin de prendre transport, mais sinon je prends le bus ou le train.
Si j'ai des courses, je prends le tram et je prends mon vélo pour aller au fac là.
Ça m'arrive de prendre le tramway ou alors le bus.
Moi, surtout ma voiture, parce qu'il pleut beaucoup ici à Brest. Et sinon, quand il fait beau, un peu de vélo électrique de la ville.
Ouais, le vélo électrique de la ville, c'est vrai qu'il est assez pratique quand il fait beau. Et sinon, ouais, beaucoup voiture quand même, voilà.
Soit à pied, soit en voiture.
Ouais, moi, je prends le bus, que le bus.
L'UBO a d'ailleurs recruté Gwendal Kiger comme assistant ingénieur du développement durable pour mettre en place un plan mobilité. L'association Brest à pied et à vélo valorise la mobilité active dans le pays de Brest. Sean Ferré, salarié et ancien bénévole de l'association, agit en faveur de ces mobilités douces.
Alors la première activité historiquement, c'est l'activité de plaidoyer. On essaie de faire pression sur la collectivité pour qu'ils mettent en place des aménagements cyclables sécurisés. On est consulté par la métropole quand ils mettent en place des aménagements et en général, on trouve que plus peut être fait. Donc on leur demande de piétonniser, d'élargir les trottoirs. Il y a des avancées en termes d'aménagement cyclable et piéton à Brest. On est content de voir tout près d'ici que la place Guérin a été piétonnisée, c'est une bonne avancée. On demande que des aménagements piétons soient mis en place.
Des aménagements nécessaires en effet, les deux mesures les plus demandées par les Brestois sont un réseau cyclable plus complet et direct et un entretien des pistes et des bandes cyclables. Johan Nedelec, chargé des déplacements de la ville de Brest, a créé un schéma directeur sur la question du vélo.
On a voté un schéma directeur vélo en 2019. On a démarré avec la part du vélo, la part modale du vélo à 1,5 sur Brest, autant vous dire que c'était catastrophique. Le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait dit que la France, partout en France, on devait être à 9% de part modale en 2024. Moi je suis très content parce que courant 2023, on a dépassé les 4% de part modale. Et c'était l'objectif qu'on s'était fixé dans ce schéma directeur vélo. Donc ce schéma directeur vélo, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, la carte des priorités, la carte des endroits à sécuriser, parce qu'il n'y a pas que la création des pistes cyclables, il faut sécuriser les actuelles. Il y a les pistes et des voies cyclables, c'est pas la même chose. Donc là, notamment avec mon réseau grandi, la deuxième ligne de tramway et la ligne de bus au niveau de service, sur quasiment 14 km complémentaires de pistes cyclables. Là, j'insiste, c'est pas d'endroits juste matérialisés avec de la peinture, ça va être vraiment des pistes cyclables.
Et pour ceux dont l'exercice du vélo en ville peut être intimidant, l'association BAPAV organise justement des ateliers de vélo-école pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo en ville. L'association organise aussi des ateliers d'auto-réparation pour apprendre à réparer son vélo et aussi une activité de transport en triporteur pour les personnes en situation de dépendance. La question des vélos étant développée, on peut également se demander quels sont les objectifs de la mairie en termes de bus.
En 2018, on a pris la décision de muter la façon de faire fonctionner nos bus, c'est-à-dire que le bus thermique s'était terminé. Le dernier bus que l'on a acheté, c'était en 2018-2019. Et tous les bus qui rentrent maintenant, qui remplacent les plus anciens, sont des bus électriques. Il y a l'acquisition des bus au gaz qui émettent aussi beaucoup moins de particules dans l'air. L'objectif était initialement prévu à 2028. On aura un peu de retard puisque tout le monde veut du bus électrique en France, en Europe. On vise 100% de notre parc bus à horizon 2030 maintenant, sachant que sur les 105 bus que nous avons, avec l'arrivée de la deuxième ligne de tramway plus le bus à haut niveau de service qui va aller sur l'Ambézélec, on n'aura plus besoin d'autant de bus. On en aura à peu près 20 en moins.
La question de la gratuité des transports en commun est aussi intéressante. Au-delà de l'aspect bénéfique pour le porte-monnaie, on pourrait imaginer un report modal des voitures vers les bus ou le tram.
Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas copier-coller deux territoires. Montpellier n'est pas Brest, Brest n'est pas Dunkerque, Dunkerque n'est pas Rennes et ainsi de suite. Il y a un budget général, le budget de Brest Métropole, ce qui veut dire que les territoires de Montpellier et de Dunkerque, qui sont très riches en termes d'infrastructures économiques, du côté de Dunkerque, ils ont des centrales nucléaires, donc ça rapporte énormément d'argent. Voilà. Brest, c'est pas pareil. Si jamais on décidait la gratuité totale, il faudrait, dans ces cas-là, trouver à peu près 13 millions d'euros par an que rapportent la billetterie et les abonnements de Bibus. C'est une vraie question. C'est pas un non ferme et catégorique, c'est peut-être par étapes. Actuellement, nous travaillons sur des gratuités sectorielles ou en termes d'âge. Je pense notamment aux plus jeunes qui ont des budgets parfois serrés. Le budget transport représente quelque chose d'important. Donc on regarde aussi sur les moins de 26 ans des possibilités d'améliorer la situation. On a des opérations avant les fêtes, deux week-ends gratuits, où là c'était un samedi, parce que ça coûtait un peu moins cher que deux dimanches, même si les magasins étaient ouverts le dimanche. On est en train de travailler sur des réflexions comme celles que vous dites, peut-être sur des tranches d'âge, peut-être le dernier samedi de chaque mois ou le premier samedi de chaque mois. Il faut savoir pourquoi on le fait. Si c'est juste parce que c'est un effet de mode, moi ça m'intéresse pas. Il faut vraiment que ça réponde à des besoins et surtout que les personnes qui décident de prendre le transport en commun prenaient leur voiture avant et décident de prendre le transport en commun. C'est ce qu'on appelle le report modal. Si c'est cannibaliser les piétons qui se disent bah, « comme c'est gratuit, je vais prendre le transport en commun, mais j'aurais été un piéton avant », c'est moins intéressant. Par contre, si on a des études qui nous prouvent que la voiture est laissée au parking relais ou dans le garage, moi ça me va, dès lors qu'on a pris les transports en commun.
Frédéric Errand, spécialiste des transports, déclare dans un article du Média Reporter que les mesures qui s'attaquent directement à l'automobile sont beaucoup plus efficaces, comme le fait de généraliser les zones à 30 km/h. Il plaide également pour généraliser les mobilités douces. La France Insoumise, quant à elle, a lancé une pétition pour tester la gratuité des transports jusqu'à la fin des travaux de la deuxième ligne de tram, et le Parti communiste français veut expérimenter la gratuité pour les jeunes jusqu'à 26 ans. Enfin, pour ce qui est des voitures, la région Bretagne et la Loire-Atlantique ont développé la plateforme Wesgo qui permet de faire du covoiturage de proximité. L'application semble connaître un certain essor depuis 2 ans, cependant pour un trajet Quimper-Brest, la majorité des comptes qui me sont proposés n'ont jamais accepté aucun trajet, ont souvent 16 ans et ne se sont connectés qu'une seule fois sur le site. Ils proposent cependant des prix 2 fois moins chers que Blablacar, cela vaut donc le coup de regarder.
Merci Tintin pour ce magnifique reportage et merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Je remercie aussi Jérémy, Tintin et Mickaël de m'avoir accompagné ce soir pour cette quotidienne et je vous propose de réécouter la playlist de Radio U sur les ondes du 101.1 tout simplement. Je vous rappelle que ce soir nous avons plusieurs émissions, Transvinyl Express, Meta Radio, Libertalia, Soundtest, bref, un menu maxi best-of complet ce soir juste pour vos belles papilles auditives. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain soir, toujours à 18h, toujours sur le 101.1 pour la prochaine quotidienne. Bonne soirée sur Radio U.